Il est 18h dans le studio Kalangou, au micro Michel Deji pour le journal Les Titres. Jour J-13 pour le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans dont les compétitions se dérouleront à Niamey et à Maradi. Quant à l'état des installations à Maradi, toutes les craintes sont dissipées, a déclaré le président de la Fédération nigérienne de football à l'issue d'une visite de terrain effectuée ce matin, vous l'entendrez dans ce journal. L'opération coup de poing lancée dans la ville de Niamey pour mettre fin au grand banditisme après des vols aggravés et meurtres enregistrés porte ses fruits. Des chefs de quartier saluent le retour progressif de la sécurité grâce aux efforts des forces de l'ordre. Nous sommes dimanche en Partie Magazine, c'est le rendez-vous de la rétrospective, les faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Ce sera avec Adam Adouaki. Bonsoir à tous. Au moins 8 casques bleus tchadiens ont été tués ce dimanche dans une attaque terroriste complexe d'un camp de la mission de l'ONU dans le nord-est du Mali. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source proche de la mission de l'ONU à Kidal, à quelques 200 km au sud du camp d'Agerhouk, où l'attaque s'est produite tôt dans la matinée. Par ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en visite au Tchad, a annoncé ce dimanche la reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad. Les relations diplomatiques entre les deux pays avaient été rompues par N'Djamena en 1972, a ajouté le communiqué repris par l'AFP. En août 2018, c'est un rappel, le gouverneur de la région de Niamey a lancé une opération coup de poing dans la ville pour mettre fin au grand banditisme qui sévissait dans certains quartiers de la capitale. Des vols aggravés et meurtres dans la ceinture verte ont été enregistrés. Selon les chefs des quartiers de Kouartédji et Bobiel, la situation sécuritaire s'est améliorée grâce à la présence des forces de sécurité dans leur quartier. Boula Seyni et Adamou Moukaila au micro de Moutari Mohamed.
Le crime, comme on attend là, vraiment c'est fini. Dans le quartier, ce sont des enfants, des voisins qui vont venir prendre marmite et cellulaire de quelqu'un.
Vraiment, on remercie Dieu pour la bonne sécurité qui est revenue dans notre quartier maintenant, et cela grâce à la forte implication des forces de l'ordre. Avant, en pleine journée, des gens se voient délestés de leurs biens, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La seule chose qui reste, ce sont les bandits qui occupent des hangars et qui font semblant d'être des commerçants, alors qu'en réalité, ils ne s'intéressent qu'à la vente des stupéfiants de tout genre. J'ai informé les autorités municipales qui les ont déjà sommés de dégager et s'ils ne le font pas, au bout de quelques jours, ils seront déguerpis de force. Maintenant, chacun vaque bien à ses occupations et pour le moment, je n'ai entendu aucune plainte de la population. Toutes les craintes sont dissipées, selon le président de la Fédération nigérienne de football à l'issue des visites qu'il a effectuées ce matin sur les terrains devant accueillir les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Jibril Hamidou Hima, président de la FENIFOOT, au micro de Mohamed Maman.
On s'était beaucoup plaint du retard sur les travaux, mais fort heureusement, aujourd'hui, avec la réaction des autorités, donc nous sommes rassurés maintenant. Le terrain d'entraînement qui nous inquiétait beaucoup plus, tout est réglé aujourd'hui, tout est fin prêt. En ce qui concerne le stade de compétition même, le seul aspect qui était inquiétant, c'est l'aspect électricité, donc l'aspect éclairage du stade. On peut gager aujourd'hui qu'en tout cas, nous allons compétir dans de bonnes conditions.
Quels pays seront ici à Maradi?
Le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali et le Ghana. Il faut saluer aussi l'engagement des hôteliers de Maradi, c'est exceptionnel. C'est la première fois qu'ils vont accueillir une telle compétition. Le sacrifice qu'ils ont fait est à saluer.
Restons à Maradi où le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a lancé vendredi la campagne de sensibilisation du concept de la vision zéro accident au travail. C'est pour amener employeurs et employés à s'engager pour mettre fin aux accidents graves et aux maladies au travail et valoriser ainsi le capital humain. Pour le ministre Mohamed Ben Omar, il est tout à fait normal pour un pays qui se respecte d'adhérer à cette vision. Il est au micro de Mohamed Maman.
C'est une logique qui a des impacts positifs, diminue les accidents de travail, diminue les coûts d'amortissement de ces accidents de travail et permet d'avoir un cadre de travail décent, davantage répondre aux objectifs de développement durable tels que prescrits par les conventions pertinentes du BIT. Ça veut dire que c'est une nouvelle façon de travailler, protéger le travailleur, créer les conditions les meilleures dans un climat sain. Et cela veut dire qu'en tant qu'État, en tant que ministère en charge du travail, nous ne pouvons que soutenir cette vision et le gouvernement a donné des instructions fermes pour que toutes nos entreprises, notre fonction publique, le secteur privé, le secteur paraprivé, tout le monde doit s'inscrire dans cette logique-là pour que le bien-être que nous voulons pour notre peuple soit une réalité dans le cadre du travail. Nous voulons de plus en plus que entre employeurs et travailleurs, que nous ayons des contrats de travail en bonne et due forme, notamment de couverture sociale, de sécurité sociale, de prévenir un certain nombre de risques.
Les autorités administratives et coutumières du département d'Ile-la-Oumani, région de Tawa, ont effectué le 17 janvier une mission de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille à Kwaira, un village du dit département. Pour plus de précisions, écoutons le maire d'Ile-la, El-Hajj Oumar Douka, au micro de Asman Moussa.
Les jeunes filles, il faut leur donner leur chance d'aller à l'école aussi. Parce que souvent on voit dans les villages à bas âge, 12 ans, 13 ans, on marie la petite fille, on l'arrache de l'école. Parce que 12 ans, 13 ans, elle va dans un foyer, elle ne sait même pas ce que ça veut dire un foyer. Le mari ne va pas la regarder comme ça. Elle va prendre une grossesse. Au cours de l'accouchement, son corps n'est pas prêt. Souvent, elle et l'enfant, tout le monde meurt. Ou bien ça se traduit en cette maladie yo-yo isari. C'est ça en français, fistule obstétricale. Elle ne peut plus garder ses urines. La famille la rejette, le mari la rejette et elle, sa vie est gâtée. Or, si on la laisse à l'école, il y a des femmes aujourd'hui ministres. Vous voyez, peut-être même dans ce village-là, il y a des femmes sages-femmes, il y a des femmes directrices, il y a des femmes mères. Mais il faut la laisser tenter sa chance.
Méconnaissance par les femmes du département de Falmaï, région de Dosso, de l'importance de l'allaitement maternel exclusif. Selon le médecin-chef du district sanitaire de cette localité, certaines femmes donnent quelques liquides aux nouveau-nés, surtout pendant la saison chaude. Docteur Idi Djibagé Aboubakar, chef du district sanitaire de Falmaï, au micro de Mokhtar Hamadou.
Avec les différents postes, que ce soit les tri, les consultations de nourrissons ou la vaccination, nous on sensibilise les femmes pour bien allaiter leurs enfants. Et même à la maternité, après l'accouchement, la première des choses, c'est une mise au sein immédiate, on dit effectivement. Et après, à la sortie, on conseille la maman que l'enfant n'a besoin que de son lait durant les 6 premiers mois-là de sa vie. Les femmes sont informées. Il est vrai que compte tenu de la culture, de ce que les gens effectivement pensent parfois durant la saison chaude, les femmes pensent que les seuls laits maternels ne peuvent pas suffire à l'enfant. Du coup, elles s'adonnent en tout cas à donner quelques liquides aux enfants. Mais je pense que c'est le message nous qu'on relaie chaque fois. L'allaitement maternel, pendant les 6 premiers mois, le lait maternel seul suffit largement à l'enfant. Il suffit juste d'allaiter l'enfant régulièrement, au moins 8 fois ou 12 fois même dans la journée. En tout cas, autant que l'enfant a besoin, il doit être allaité.
En cette période de froid où les températures sont très basses à Agadez, la population utilise le charbon de bois pour se chauffer dans les maisons, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des personnes. Docteur Dangana Mohamed explique l'action de ce combustible sur la santé humaine au micro de Anissé Karim.
Le chauffage avec le charbon de bois est fortement déconseillé parce que la combustion du charbon de bois à l'intérieur d'une chambre va provoquer la formation du monoxyde de carbone. Et ce monoxyde de carbone, c'est un toxique dans le sens que si les gens se rendent compte dans les premières heures d'utilisation qu'il y a problème, à la rigueur, ils peuvent s'en sortir. Vous allez avoir des malaises, des sensations de vertige, des maux de tête, des vomissements, des douleurs partout, le corps qui vous fait mal. À cet instant, si vous pouvez déjà à vous en sortir, c'est très bien. Mais si l'exposition se prolonge à partir d'un certain temps, c'est la mort. Parce que l'organisme, une fois que le taux d'oxygène dans le sang va baisser et que cet oxygène est remplacé par le monoxyde de carbone au niveau du sang, arrivé à un certain moment, toutes les fonctions vitales vont s'arrêter et la personne risque la mort.
Le directeur départemental de l'hydraulique d'Ayero, région de Tillabéri, a entamé jeudi une tournée de sensibilisation pour lutter contre le choléra. Sont concernés par cette sensibilisation les habitants des îles du fleuve Niger qui seront réinstallés sur les 24 sites réservés dans le cadre de la réalisation du barrage de Kandaji. Les précisions de Jibril Kaka, directeur départemental de l'hydraulique au micro d'Abdoulaye Amadou.
Vous êtes sur une île et le fonçage d'un forage sur une île est très difficile. Mais le programme Kandaji nous a promis de pomper l'eau pour alimenter des châteaux que le programme va construire afin de vous alimenter en eau potable sur le nouveau site que vous allez rejoindre. Et les travaux de ce projet ont déjà commencé et sont à la hauteur de 65% de réalisation environ. Ce qui est du rôle du service de l'hydraulique, nous savons que vous consommez l'eau du fleuve. Et l'eau du fleuve est sale. Chaque année, nous avons un programme par lequel nous apportons les comprimés appelés purs ou aquatables. Nous avons adressé la demande auprès de nos partenaires et nous attendons. Dès que ces produits arrivent, nous allons les remettre aux mairies et les mairies vont vous les remettre pour utilisation.
Studio Kalangu.
Suivez les programmes du Studio Kalangu
à Niamey
sur la radio alternative 99.4 MHz, sur la radio Amfani 100 MHz, sur la radio Scout 90.9 MHz, sur la radio Challenge 96.6 MHz.
Studio Kalangu.
Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de ce journal. Comme chaque dimanche, elle est consacrée à la rétrospective des faits ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Le point avec Adam Odawaki.
L'actualité de la semaine a été marquée par le jugement en appel lundi à la cour d'appel de Niamey de l'avocat Lirwana Abdourahmane. Pour rappel, il a été condamné en 2018 pour certains propos tenus en audience publique contre le doyen des juges du tribunal de Niamey. Le délibéré est fixé au 11 mars prochain. Toutefois, maître Mazey Patrick, le conseil de Lirwana, estime que les faits pour lesquels son client est poursuivi ne sont pas constitués car Lirwana n'a fait qu'exprimer son opinion de citoyen devant la cour. Autre affaire judiciaire en Afrique, c'est l'annonce de l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et le leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale CPI. Laurent Gbagbo était poursuivi depuis 2011 pour crimes contre l'humanité par la CPI. Vendredi, la chambre d'appel de la CPI ordonne le maintien en détention de l'ex-président ivoirien et de l'ex-leader des jeunes patriotes, rapporte Radio France internationale. Le président du comité international de la Croix-Rouge était du 12 au 15 janvier en visite à Niamey, Agadez et Diffa. Objectif, constater sur le terrain les interventions des antennes de la Croix-Rouge au Niger et échanger avec les personnes en difficulté ainsi que les autorités nigériennes. Peter Maurer a par ailleurs salué le respect de la bonne coopération entre les structures de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge au Niger face aux besoins humanitaires et aux défis du moment. A noter aussi la visite mercredi du président du Conseil italien Giuseppe Conte au Niger. Les questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, les organisations criminelles, le trafic de drogue, le trafic des migrants étaient au centre des discussions avec le président nigérien Issifou Mahamadou, selon le quotidien Le Sahel. Le chef de l'État Issifou Mahamadou a procédé vendredi à Ottawa au lancement des travaux sur 44 mois de l'aménagement de la route Tebran-Sanam, longue de 149 km. C'est dans la région de Ottawa, grâce à un financement de près de 30 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement. Des dégâts considérables et des rizières inondés au quartier Gamkale et Saga du 4e arrondissement communal de Niamey. C'est la conséquence de la crue du fleuve Niger dans la nuit du jeudi à vendredi dernier dans ces deux quartiers riverains du fleuve. Plus de la moitié de la commune rurale de Sinder, région de Tillabéri, est aussi inondée, dont des écoles, des rizières et autres voies d'accès bloquées, rapporte le maire de la dite localité.
Et c'est avec cette rétrospective de Adam Odawaki que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.
Suivez les programmes du studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangu.
J'aime et je partage.